proclamer la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, l'émission Vendémiaire, ce jour consacré à Louis Aragon, et nous avons fait l'ouverture de cette émission avec la version de Sergio Girolio de l'Affiche Rouge. Sergio Girolio, qui pour information d'actualité sera le 11 mars en récital à Lyon au Palais de la Mutualité. Avec nous, bien sûr, pour réaliser cette émission, Maria et Jean, Maria Berlioz, Jean Knopf, qui vont nous parler, en somme, la suite de la précédente émission, puisqu'ils ont découvert, en retravaillant un peu, qu'il y avait encore beaucoup de questions qu'on n'avait pas réussi à aborder dans cette première émission consacrée à Aragon et l'art, et à l'art et le rôle, le politique et l'art aussi, les rapports entre le politique et l'art, l'art de partir. Enfin, c'est tous ces sujets-là principalement que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour à vous, je vous donne la parole.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à vous tous.
Oui, la dernière fois, donc nous avons pris comme point d'appui la réédition d'un volume consacré aux écrits sur l'art écrit sur l'art moderne. Donc, et c'était la seconde édition. Hein, on avait dit, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on avait dit que c'était une version considérablement augmentée et complétée. Alors, sur le plan théorique, ce qui nous a semblé, c'est de revenir sur cette question du réalisme. Puisque nous l'avons dit, et ça on va le redire et le développer abondamment aujourd'hui avec des illustrations autour de la question du réalisme et également du réalisme socialiste dont nous parlera Maria. Sur cette question du réalisme, les choses sont compliquées. Alors on va essayer de faire simple. Il y a deux définitions qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont de deux domaines différents. Alors la première, c'est celle des historiens de l'art. Bon, les historiens de l'art, comme les historiens de la littérature d'ailleurs, ils ont besoin de classer en mouvements. Il y a des mouvements littéraires, il y a des mouvements picturaux, il y a des mouvements musicaux, etc. Alors, si on prend la question du réalisme, j'ai revu ça de près en consultant les histoires de l'art. L'école réaliste en matière de peinture, hein, on parle de peinture hein, puisque c'est essentiellement la préoccupation d'Aragon. Le mouvement réaliste, en fait, il naît en 1855 et il est autour de quelqu'un ben, que Jean-Pierre connaît bien, c'est Gustave Courbet. Hein, pour le rappeler à nos amis que Gustave Courbet, donc c'est le 19e, 1819-1877. Et exactement, pourquoi 1855 ? Parce qu'il expose à Paris à ce qui a été nommé le pavillon du réalisme. Voilà. Donc, on va désigner ce courant. Qui prendra fin avec un autre courant, bon, l'impressionnisme, et vont se succéder, l'impressionnisme, que tout le monde connaît, mais donc ensuite, par exemple, on va trouver les Nabis. Alors, les Nabis, dont le représentant est Bonnard. Bon, alors ensuite, on va inventer une autre catégorie, le fauvisme. Pourquoi le fauvisme ? Parce que la couleur pure est l'élément plastique, un élément plastique indépendant. Et le fauvisme, il nous intéresse particulièrement concernant Aragon, puisque c'est Matisse hein, qui est considéré comme le principal peintre de ce mouvement. Ensuite, le cubisme. Et le cubisme, pourquoi ? Parce qu'il est la rupture définitive entre la peinture et la nature. Et là, évidemment, c'est Picasso, les Demoiselles d'Avignon, hein, que l'on considère comme le premier grand tableau cubiste, et puis également Braque, des peintres qui sont très très proches justement d'Aragon. Et puis ensuite, bon, on va avoir l'art abstrait avec Léger, Delaunay, etc. Mais, donc ça, ce sont les classifications des historiens de la littérature, comme par exemple quand on va comme dans la littérature, lorsque l'on classe une école réaliste qui est avec Flaubert, qui démarre avec Flaubert. Alors que justement, le concept de réalisme en art et en littérature, c'est-à-dire cette proximité entre la représentation, en l'occurrence picturale, et ce que l'on va appeler la réalité, elle date bien avant Courbet. Hein, par exemple, en recherchant, toujours dans les histoires de la peinture, c'est avec le Caravage, hein, le Caravage qui est tout de même un peintre de la fin du XVIe siècle, hein, puisque ces dates, il est né en 1573, et il est mort en 1610. Dans les représentations du Caravage, on voit un certain nombre de personnages dont les attitudes peuvent être assimilées au réalisme. Alors qu'on est en plein dans la peinture dite religieuse, la mythologie chrétienne, etc. Et j'ai trouvé justement de la même époque, une citation d'un philosophe de l'art, hein, qui dit « La véritable idée de la peinture qui n'est autre, donc la peinture qui n'est autre que l'imitation du vrai. » Alors bon, le vrai et le réel, ça coïncide pas exactement, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais il y a tout de même ce souci de l'imitation. Hein, et la question du réalisme, elle est justement le d'ailleurs les gens qui sont un peu ignorants en peinture ou qui aiment pas vraiment ça, ils disent ah ça ressemble à rien. Hein, ressembler, c'est justement imiter quoi, ça doit ressembler à quelque chose. Et puis alors quand on feuillette les livres d'art, on s'aperçoit par exemple que tout le courant de la peinture hollandaise, hein, c'est quand même pas rien. Vermeer, Rubens, Rembrandt, c'est bien tout de même. Bon, ces peintures de paysages, ces scènes de village, etc. Ou ces ports flamands. Bon, il y a bien un réalisme, une imitation de la vie. Et Dieu sait d'ailleurs si c'est prégnant et c'est très beau. Hein. Et puis alors, si on va du côté de la peinture, en France, par exemple, il y a les frères Lenain. Hein, les frères Lenain au XVIIe siècle, qui font des peintures qu'on peut assimiler au réalisme. Et puis Chardin et ses natures mortes, hein, c'est quand même extrêmement saisissant. Et puis Fragonard, par exemple, Fragonard, qui fait des peintures de mœurs. Hein, c'est Fragonard qu'aimait tellement Diderot. Hein, d'ailleurs, quand on parle d'art, quelqu'un, je trouve... d'essentiel, moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est les salons de Diderot, les salons de Diderot qui est à la recherche permanente d'un art qui reflète la société. Il le fait d'ailleurs dans le domaine du théâtre, mais là malheureusement le pauvre il est moins inspiré, avec le drame bourgeois, hein, Diderot est un des inventeurs, avec Sedaine, de ce qu'on appelle le drame bourgeois, alors c'est des scènes de famille, enfin etc., bon. Et plutôt que la tragédie classique, avec les personnages de la mythologie. Donc, on trouve des choses là qui sont parallèles. Alors, cela pour dire, et ça va nous amener directement à Aragon, qu'il y a d'une part la classification des historiens, mais qui est utile. Hein. Bon, c'est vrai que si on veut s'y retrouver dans ce foisonnement de courants, de créations, etc., c'est utile de classer, mais sauf que les classements, ça déborde toujours un peu, quoi. Il y a toujours ceux qui sont à la marge, bon, etc. Et puis le concept en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va appeler un art réaliste. Alors, ce qu'on a dit la dernière fois, et on va y revenir, ce qu'on a dit la dernière fois, c'était que pour Aragon, s'agissant de la peinture, hein, mais il l'étend également à la littérature, tout art relève de cette catégorie philosophique, hein, de philosophie esthétique, qu'on appelle le réalisme. Alors, revenons-en plus précisément à cet article qui s'appelle « Réflexion sur l'art soviétique ». C'est là-dessus... qu'on est sans doute passé un peu légèrement, puis comme c'était en fin d'émission, et qu'on a toujours des problèmes avec la gestion du temps, je voudrais qu'on y revienne. Pour resituer, alors, d'abord, l'article, il paraît en 1952, c'est-à-dire un an avant la mort de Staline. Et on sait que la mort de Staline, s'agissant d'Aragon, hein, on en a un peu parlé la dernière fois, ça va provoquer un débat sur l'art, puisque c'est la fameuse affaire du portrait de Picasso. Alors, que s'est-il passé? Alors, les lettres françaises, parce que on est au cœur de la question des lettres françaises. Les lettres françaises sont toujours dirigées par Claude Morgan, qui passera la main ensuite à Aragon. Et que fait Aragon dans les lettres françaises? Et là, ça concerne directement notre propos. Aragon est responsable des deux ou trois dernières pages de chaque numéro d'un supplément qui s'appelle « Tous les arts ». Or, à la fin de 1951 et au début de 1952, exactement le 27 décembre, dans le numéro du 27 décembre 1951 et celui du 3 janvier 1952, paraissent deux articles consacrés à la peinture soviétique. Donc, ce sont deux articles qui sont des traductions du russe, mais on peut considérer que Aragon étant le responsable de cette rubrique, hein, de ce supplément, bon, c'est lui qui a autorisé la publication de ces deux textes. Alors moi, il se trouve que j'ai un certain nombre de numéros des lettres françaises. J'ai pas celui du 27 décembre, mais j'ai par contre celui du 3 janvier 52 que j'ai donc lu. Et c'est un article qui vise très clairement à montrer que on est dans la guerre froide, hein, faut pas l'oublier, ça se sent, hein. À montrer que ben finalement en Union soviétique il y a un débat autour de la peinture et puis qu'il y a un souffle de liberté quoi qui est présent. Alors j'ai relevé justement les questions que posent ces articles. Aujourd'hui, qu'attend le public soviétique de la peinture? Donc il y aura un dialogue entre les peintres et le public. Le réalisme socialiste se satisfait-il d'avoir gagné la bataille du sujet? Quelles ambitions le peintre soviétique doit-il se dicter à lui-même pour répondre à l'attente du peuple? Et quel doit être le rôle de la critique? Donc il y a une ouverture, hein, on sent, tout du moins dans les choses qui sont proclamées, une ouverture. Alors bon, sans doute que ça, d'ailleurs c'est des articles, faut vraiment les chercher pour les trouver, hein, ils sont pas à la une du... Mais que se passe-t-il? Et c'est ça qu'on n'avait pas perçu la dernière fois. C'est que le 11 janvier, qui suit donc la publication de ces deux articles, on trouve dans l'hebdomadaire concurrent des lettres françaises, qui s'appelle Art, ça fait d'ailleurs rêver, hein, qu'il y ait deux hebdomadaires de ce niveau sur le plan, et qui sont achetés, hein, moi je me souviens bien, hein, dans les années 60, les lettres françaises et Art. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro d'Art, hein, Art au pluriel, hein, du 11 janvier 1952, un article d'André Breton. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai relevé la partie la plus... Tout cela crie l'égarement, tout cela sue la terreur. Il y a longtemps que la publicité faite en URSS et hors de l'URSS à de périodiques débats sur l'art ne parvient pas à donner le change. Ce n'est pas la décision plus ou moins récemment prise de combattre le naturalisme au même titre que le formalisme qui est susceptible de ranimer l'intérêt. La vérité, soigneusement scellée, c'est que la peinture russe contemporaine, dans les limites dérisoires où elle a licence de s'exercer, a été incapable de rien produire qui dépassa ici l'ancienne image de calendrier, de grands magasins ou de chromos de village. Donc là, la condamnation est sans appel. Alors, silence radio du côté des lettres françaises, sauf que Aragon, la fin janvier 52 et le mois d'avril, va publier une centaine de pages autour de la question de la peinture soviétique. Alors ça, on l'avait dit la semaine dernière, la dernière fois, et surtout ce qu'on avait souligné, c'était que la différence entre les deux éditions, puisque dans la première édition, il y avait une dizaine de pages, alors que là, l'intégralité des articles fait 100 pages. Alors bon, cela dit, il faut s'accrocher, parce qu'il parle que de gens qu'on ne connaît pas, à vrai dire, hein, bon. Mais sur le plan théorique, alors en y revenant, c'est ce qu'on a essayé de faire là pour cette fois, puis on va illustrer, hein, tout ça. Il y a vraiment toute la réflexion d'Aragon sur l'art, qui va le conduire et qui sera, je pense, une position qui le caractérise. Alors, Aragon, il va donner une définition de ce qu'est l'art pour lui, et on va la commenter, puis ensuite on illustrera ça. L'art exprime des idées, et pas n'importe quelles idées, les idées de l'humanité qui va de l'avant. L'art est basé sur la connaissance et la représentation de la réalité, de la vie, et non pas sa représentation photographique naturaliste, mais sa représentation caractéristique, typique, saisissant la réalité, la vie, dans leur développement et sur leur développement historique, dans le sens du développement de l'humanité, de sa montée, par conséquent de la transformation du monde par l'homme, de la société et de la nature, de l'homme lui-même. Bref, l'art saisit dans la réalité et représente ce qui est caractéristique du développement révolutionnaire de l'humanité, ce qui, par sa représentation même, est la concrétisation des idées que cette représentation suppose, aide activement à ce développement. L'art ne se contente pas de constater les progrès de l'homme, il y contribue. Il les devance par la perspective qu'il leur donne. Il a, en un mot, un caractère éducatif dans l'esprit du socialisme. Alors, bon, mis à part un peu bon, le langage très connoté de ces années, il y a quand même des idées, j'ai relevé là trois idées essentielles. C'est que on retrouve, même si c'est dans la phraséologie un peu réaliste, socialiste, hein, on retrouve quand même l'aspect d'avant-garde de l'art qui fait que, contrairement à ce que dit Breton, hein, qui sous-entend qu'en fait on est un peu dans la ringardise, dans l'art de propagande au sens vulgaire du terme, il y a dans l'art un aspect avant-gardiste fondé sur la connaissance et la vie. On retrouve une définition de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le réalisme socialiste, qui était Paul Klee, dont on a parlé la dernière fois. L'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. Donc, sur ce côté, l'art est d'avant-garde. Alors, ça, c'est la première idée. La deuxième idée aussi, alors c'est vrai que quand on voit un certain nombre de peintures de réalistes socialistes, c'est peut-être pas évident, mais Aragon distingue le réalisme du naturalisme. Le naturalisme qui est la simple photographie de la réalité, alors que le réalisme reproduit le mouvement historique. Le réalisme, il est mouvement pour Aragon. Alors c'est vrai que moi j'avais vu une exposition réalisme socialiste à Saint-Étienne il y a quelques années. Bon, c'est vrai que les travailleurs en usine avec les bras musclés, etc., sur leurs machines, ça faisait quand même très naturaliste. Hein. Mais enfin bon, pour Aragon, mais dans ses articles sur la peinture soviétique, il dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pas aimées. Donc il prend aussi, c'est toujours Aragon, hein, il prend ses distances quand même. Il soutient, mais bon, il prend ses distances. Donc quand même, réalisme et pas naturalisme. Et puis enfin, la dernière idée, c'est que l'art est lié au développement historique et humain, développement révolutionnaire, dit-il à un certain moment, donc il contribue au développement de l'humanité. C'est curieux, parce que dans les temps que nous traversons, là, qui sont quand même tragiques et assez angoissants, j'entendais encore il y a quelques jours quelqu'un dire « Oh là là, on a besoin de la culture, on a besoin de la création, on a besoin... » Et je trouve qu'aujourd'hui, ce besoin justement de donner du sens et puis peut-être d'avancer, c'est quand même le développement humain, grâce ou par la médiation de l'art. C'est là-dessus où je trouve que loin des caricatures, parce que ça c'est ce genre de texte que d'ailleurs personne ne lit, c'est des choses qu'on reproche à Aragon, qu'on caricature assez volontiers. Alors, une dernière chose, et puis après on va regarder un peu avec Maria qui va nous parler de Guernica, hein, puisque c'est quand même une toile que beaucoup connaissent. Deux précisions. Aragon situe l'art dans un cadre qui est souvent national, hein, c'est-à-dire la peinture soviétique et la peinture française, par exemple. Et je voudrais rappeler un événement important qui s'est déroulé en 1947, donc tout de suite après la fin de la guerre, où il y a eu une controverse entre Aragon et Elsa Triolet, parce qu'Elsa Triolet y a également activement participé, entre Simonov et eux, Simonov assimilant Matisse et Picasso à des décadents, un art dégénéré. Alors là, ils ont bondi, parce que le concept d'art dégénéré, c'est quand même celui qu'employaient les nazis, hein. Et donc il y a eu toute cette polémique, et qui définit bien leur position. D'ailleurs, on avait publié à la Société des Amis d'Aragon, Elsa Triolet, un numéro spécial consacré à ça. Jean Albertini, d'ailleurs, y avait participé. Et François Echard, notre secrétaire de l'association, qui présentait le numéro, avait écrit ce face-à-face avec Simonov, dans lequel Elsa Triolet tient toute sa part, est un peu un résumé de ce qu'Aragon et Elsa Triolet ont à dire sur la question de l'art et de ses rapports avec la politique à cette époque. Et donc tout ça se situe donc dans cette perspective. Alors pour illustrer, parce que bon, j'ai été assez long, puis c'est théorique ce que je raconte, Maria a repris le Guernica de Picasso, justement, qui illustre cette conception d'Aragon, alors qu'on peut pas dire quand même que le Guernica soit une représentation naturaliste, hein, c'est pas la photographie du village de Guernica criblé de bombes, l'église en ruine, enfin bon, il y a pas ça. Hein.
Non, voilà. Moins de là. Et puis je pense que tout à l'heure on parlera, puisqu'on parlait du socialisme soviétique, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, il nous reste un moment. Alors, il y a un propos de Sarah Wilson qui dit ceci: Aragon tient pour la première fois son discours hautement idéologique. Réalisme socialiste, réalisme français, lors de l'exposition de chefs-d'œuvre d'art français, réalisé dans le cadre de l'exposition internationale de 1937. Alors, quand on parle de chef-d'œuvre, on peut parler celui de, justement, Guernica, qui est donc produit, créé par Pablo Picasso. Et juste pour rappeler les faits pour les personnes qui ne se sont pas toujours penchées sur cet événement, Guernica est une ville espagnole de 7000 habitants située sur la route de Bilbao au Pays Basque. Pendant la guerre civile qui a démarré en 1936, les républicains avaient demandé de l'aide à la France et à l'Angleterre, et eux ont répondu non. Le 26 avril 1937, la petite ville est bombardée par les raids aériens allemands qui, eux, évidemment, avaient porté secours à Franco. Les hommes de cette ville combattaient auprès des républicains, opposés, bien sûr, à la junte militaire nationaliste. Il n'y avait à Guernica, il ne faut pas l'oublier, que les femmes, les enfants et les vieillards. Figurez-vous que en quelques heures, la petite ville a été complètement anéantie. Alors, Pablo Picasso, qui avait eu la commande par les républicains de présenter une fresque pour représenter l'Espagne à l'exposition universelle de Paris de 1937, Picasso, qui est quand même resté espagnol dans l'âme toute sa vie, même s'il avait vécu en France et toute sa vie culturelle s'est passée là, et politique aussi, il s'est exilé en France, mais il est resté espagnol. Donc, il se préparait à cette fresque, et puis il apprend la nouvelle dans la presse que Guernica était complètement anéanti. Alors, Picasso va réfléchir, travailler et voir comment présenter cet événement terrible. Et ce qu'il va faire, c'est que habituellement Picasso a le cubisme où les couleurs aussi appartiennent beaucoup à la peinture de Picasso, et puis certains thèmes comme la corrida ou autre. Mais là, Picasso va se poser autrement. Au départ, il se dit « je vais présenter Guernica avec des collages ». Souvenez-vous, il est à l'origine des collages, et le collage veut dire aussi prendre des morceaux de papier ou de texte qui représentent l'événement dont on vit pour représenter. Là, il s'est dit non. Il avait une réflexion tout à fait personnelle. Il voulait représenter par lui-même, par son dessin, parce qu'il sortait de lui, de ce qu'il pensait de cet événement et de ce qu'il avait ressenti. Alors, la première des choses qu'il a faites, c'est de travailler avec des couleurs en noir, blanc et gris, qui sont les couleurs de la typo et les couleurs de la presse. Il n'amènera absolument aucune autre coloration dans ce qu'on a appelé la frise, mais en fait, c'est une forme de fresque. Et il va se servir, non pas, comme tu disais tout à l'heure, de l'église qui a sauté ou des bombes qui traînent par-ci, par-là. Il va se servir de symboles comme le taureau qui a servi dans la mythologie. Il va servir du cheval qui a servi dans les grandes fresques de bataille. Il va servir de l'oiseau, il va servir de la femme et l'enfant, qui sont quand même représentatifs de la religion. Picasso va réfléchir aussi en pensant à un tableau historique, celui de Goya, qui représentait les exécutions du 3 mai 1808, toujours en Espagne.
Par Napoléon,
oui.
Les troupes de Napoléon.
Oui. Donc, tout cela va être dans Guernica. Et Guernica va être, à mon avis, l'histoire de l'homme, l'histoire humaine, avec toutes ses facettes. Et là, ça sera la période noire, la période sombre de ce que l'être humain peut représenter. Alors, quand on regarde la fresque de Guernica, évidemment, on peut se dire il y a des dessins qui sont côte à côte, il y a bien sûr ce noir, il y a bon. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai trouvé dans une petite plaquette où chaque élément de la fresque est détaché. Et je vous assure que la force est vraiment impressionnante. Et on voit par exemple la mère et l'enfant accroupis par terre, le buste dénudé. Cette femme tient son enfant mort dans les bras. On peut trouver ce taureau qui rentre dans l'image de gauche à droite, mais tourne violemment la tête dans l'autre sens pour se dire, bon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a le soldat, comme s'il était déjà sous terre avec une fleur qui pousse au-dessus de ses mains. Il y a un cheval qui d'habitude est la noblesse, avec son cavalier dans une toile. Non, là, il se tord de douleur, son corps est transpercé par une lance dont la pointe ressort de son flanc. Il y a une autre femme qui traîne péniblement à genoux, à terre, comme écrasée sous le poids d'un fardeau qu'elle ne peut pas remonter. Il y a une autre femme encore qui lève les bras désespérée, suppliante. Son corps n'est pas visible. Elle est entourée d'écailles évoquant les flammes d'un incendie. Et on pourrait encore dire d'autres, je ne veux pas être trop longue, mais tous ces éléments, c'est mûrement réfléchi par Pablo Picasso, qui rentre justement dans ce réalisme, mais avec toute la force de l'art dont Aragon s'est bien rendu compte et qu'il a soutenu toute sa vie. Ouais. Et pour la parenthèse, Pablo Picasso ne s'arrêtera pas là avec ce style de travail. Il peindra aussi le charnier après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui. Et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que donc c'est à l'exposition universelle de 1937
hein,
que Picasso
oui. Tout à fait,
a
oui.
peint Guernica.
Oui.
Mais en même temps, justement pour rejoindre cette question de l'art et de la politique, le Parti communiste était resté très très perplexe devant. Enfin, il y a eu silence autour de cette toile de Picasso. Et alors en même temps, parce qu'on y reviendra ensuite sur l'aspect national, je voudrais juste, parce que je trouve ça assez assez ironique, là je vais me faire des ennemis chez ceux qui pourfendent la corrida, mais dans la tradition espagnole, le cérémonial de la corrida, la cérémonie de la corrida, le taureau représente le mal absolu. Et donc on le voit qui émerge là dans la, puis il tourne sa tête vers le public en le défiant quoi. Il y a ce défi du taureau qui est le mal absolu. Et ça me, je trouve que dans notre sensiblerie contemporaine, enfin bon, les choses changent. Bon, défendre à tout prix le taureau comme si c'était, je trouve que dans la tradition espagnole ça fait drôle quoi. C'est parce que et là Picasso mais bien en avance ce thème très culturellement très espagnol quoi et qui est difficile à comprendre de l'extérieur. Enfin bon bref c'est anecdotique.
Tu as dit que le PC ne s'était pas positionné par rapport à la toile de Guernica. C'est parce que c'était pas dans le cadre du réalisme socialiste.
Ah bah oui, mais en 37. Hein.
37.
En 37. Hein. Mais je sais alors que ce que Picasso a fait, alors après la guerre, le charnier, hein, ce dont tu as parlé, mm-hmm. là, qui est, j'ai souvenir de cette toile qui est assez proche de l'esprit de Guernica. Il y a eu également une polémique, je crois que c'est dans le journal L'Humanité, enfin, il faudrait vérifier. Il y a eu une polémique autour de cette toile aussi. Picasso a eu du mal et bon, c'est là où Aragon a été, puis Torres aussi, hein, mais quand même, à l'intérieur du Parti communiste, il y a eu quand même ce refus de... Alors que là, dans Guernica, moi, ce que je trouve... moi, je l'ai vu à Madrid, là, maintenant, il est au musée de la reine Sofia. Moi, je dis toujours qu'avec avec la chapelle Sixtine, moi, c'est mes deux grandes émotions esthétiques, quoi. Moi, je reste scotché. C'est extraordinaire, quoi. C'est une fresque...
Allez, je vous propose de faire une pause poétique et musicale. On va revenir un peu en arrière, si on peut dire, avec la poésie d'Aragon dans les années 20, l'époque où il était proche des surréalistes. Deux textes, un qui est dit par Magali Herbinger, faiblement dit, extrait de La Grande Gaieté, et puis le deuxième par Véronique Pestel, qui a mis en musique Au Prune. C'est un texte qui est un hommage à Benjamin Pévec, qu'on trouve dans le Mouvement Perpétuel, deux textes qui sont, deux morceaux qui sont extraits d'un spectacle que Véronique Pestel a consacré et consacre toujours à Aragon.
Je n'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Je n'aime pas les gens qui n'ont rien fait parler ou sourire. Je n'aime pas les gens qui lèchent les pages des livres sous le prétexte de les tourner. Je n'aime pas les gens qui me demandent où j'ai l'intention de passer la soirée. Je n'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens qui pètent, même intellectuellement. Je n'aime pas les gens qui empestent l'ail, la buffleterie ou la soutane, les sous, les choux, la crotte et l'empressement. Je n'aime pas les gens qui se tripote en regardant les femmes d'une façon manifeste. Je n'aime pas les gens qui prétendent réglementer ma vie, mon temps, mes goûts, mes écarts de langage, qui, non content de rigoler au premier bafouillement venu d'un homme du monde, avec politesse, trouveraient mauvaise la moindre de mes pensées. Je n'aime pas les gens. Je vous dis que je n'aime pas les gens, parce qu'ils sont effroyablement bornés et stupides, parce qu'ils déjeunent et dînent aux heures fixées par leurs parents, parce qu'ils vont au théâtre, à l'école, à la revue du 14 juillet, parce qu'ils se marient, voyagent de noces, foutent légalement des enfants qui seront enregistrés aujourd'hui, deviendront soldats, putains en carte, fonctionnaires, préposés au chalet de nécessités les plus divers, parce que quand on a fini, on recommence. Parce que de tous les sentiments imbéciles, le sentiment familial est non seulement le plus répandu, mais le plus révoltant. Et je te baise, et je te tapote, et tout de même c'est si gentil les enfants, on a beau dire, et puis ils font des mots d'esprit et des farces, apprennent quand il faut une fable, un compliment. Parce que tout c'est pain d'épices. Quand ça me chante de rien faire comme eux, en cause et s'étonne, parce que je les dégueule, que je hausse les épaules devant les boas de leurs femmes, les cerceaux de leurs rejetons, les appartements de leurs bedaines. Parce que moi, je ne suis pas en règle avec le maire et la patrie, que je ne me cache pas de l'horreur qu'ils m'inspirent, parce que je n'aime pas les gens.
Benjamin, Benjamin, les oiseaux sont en flammes. La nature, un instant, a suspendu son cours. C'est le temps des yeux verts. Entends le cri des femmes qui mêlent leurs cheveux au sable de leurs jours. Entends les doux ramiers dire à leurs tourterelles, tourterelles. Et répéter sans fin que la fidélité a de charmants regards alternés de querelles qui peuplent les rameaux mûrissants de l'été. Vois les hirondelles, vois les petits bleus, vois les hirondelles, fais comme elles. Vois les petits bleus, fais comme Benjamin, Benjamin, jamais c'est beaucoup dire, toujours n'est qu'un cri-cri caché par le gazon, prends tes guêtres, crois-moi, pourquoi sans cesse écrire, écrire, c'est une prison. Vois les hirondelles, vois les petits bleus, vois les hirondelles, fais comme elles, vois les petits bleus, fais comme eux, et glisse le chapeau sur l'oreille et ton épingle de diamant dans la cravate. Sur les rails aériens des fils de laiton. Et glisse ton chapeau sur l'oreille et ton épingle de diamant dans la cravate. Sur les rails aériens, des fils de laiton, des fils de laiton.
Voilà, nous retrouvons Jean et Maria pour continuer l'évocation de cette question de Aragon et de l'art et des aspects politiques autour du sujet.
Voilà, et dans la même série d'articles donc sur la peinture soviétique, on trouve également une autre définition, et il faut qu'on parle de ça parce que c'est beaucoup caricaturé et dans la mesure où on considère que c'est un art qui est mauvais, parler quand même du réalisme socialiste. Alors, on trouve dans cette série d'articles une définition du réalisme socialiste que donne Aragon, et puis on l'illustrera, Maria l'illustrera, avec quelques reproductions d'œuvres appartenant au réalisme socialiste. Alors voilà ce que dit Aragon. Le réalisme socialiste, étant la méthode de base de la littérature et de la critique soviétique, exige de l'article, de l'artiste, pardon, une représentation véridique, historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire. De plus, le caractère véritable et historiquement concret de cette représentation artistique de la réalité doit se combiner avec le devoir de transformation idéologique et d'éducation des masses dans l'esprit du socialisme. Voilà la définition que donne Aragon. Alors, à travers les représentations que tu as trouvées, Maria, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que il ne faut pas oublier et ne pas perdre de vue que c'était pour l'émancipation humaine, pour avancer. Donc, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que on résume la période soviétique à lorsque les artistes se sont engagés dans ce travail. On dit c'est de la propagande, de la propagande. Non, aujourd'hui, on l'appellerait de la publicité. Je trouve que dans d'autres pays, en nommant par exemple les États-Unis ou dans d'autres pays qui commercialisent, ils ont une manière de faire de la propagande, c'est par la publicité commerciale ou autre. Donc, je voudrais qu'on remette quand même dans l'esprit que ce sont quand même de grands artistes qu'il y a eu à cette période-là et même plus tard. Donc,
on pourrait peut-être dire qu'Andy Warhol, par exemple, le Coca-Cola, tout ça, c'est du réalisme capitaliste.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Et puis, il y en a eu d'autres affiches dont on pourrait se pencher dessus. Parce que lorsque j'ai eu ce texte, donc, et on parlait d'Aragon qui soutenait certains artistes russes, je pense qu'il avait quand même une barre très haute pour le dire et il y voyait clair. Alors, bien sûr, il y a eu sûrement des écarts, il y a eu sûrement des propagandes, je vous l'accorde, mais dans l'ensemble, c'était quand même un travail de fond de grands artistes. Et ceux dont je vais vous présenter, ça nous fera une petite récréation, ce sont trois artistes qui étaient au pavillon soviétique à Paris en 1937. Alors, je voudrais, puisqu'on n'est pas loin de la journée de la femme, vous présenter d'abord une dame qui s'appelait Vera Moukina. C'était une sculptrice. Donc, cette femme est née à Riga en 1889 et morte à Moscou en 1953. Elle était fille de négociant. Et après la mort de ses parents, elle est confiée avec ses frères et sœurs à un oncle à Moscou. Donc, vous l'imaginez, elle est à Moscou. Elle était très penchée sur le dessin, donc elle suit des cours. Et en 1912, et c'était pas une coquetterie, elle se casse le nez. Dans son pays, elle est mal soignée et elle se rend à Paris pour le réparer. Elle en profite pendant ce séjour pour assister aux cours de sculpture française chez Antoine Bourdel et chez l'étudiant Auguste Rodin à l'Académie de la Grande Chaumière. Et de là, elle est une des meilleures élèves. Elle continue son exploration de l'art et de la sculpture en Italie. En 1943, Vera Moukina, là je vous raconte un peu sa vie, reçoit le prix de l'artiste du peuple de l'URSS. Elle devient membre actif de l'Académie des Beaux-Arts de l'URSS. Et après la Deuxième Guerre mondiale, elle contribue au développement de la sculpture monumentale et du portrait soviétique, ainsi qu'au projet léninien de propagande monumentale. On peut parler à propos de son œuvre d'art officiel, symbole du réalisme soviétique. Vera Moukina est considérée comme l'un des plus grands sculpteurs de l'ère soviétique. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle a eu comme œuvre importante. Donc, pour l'exposition de 1937 à Paris, elle a présenté l'ouvrier et la caucasienne. C'est une immense sculpture de 25 mètres de haut. Oui. Qu'elle avait faite en plâtre d'abord et qui a été coulée en métal, bien sûr, en acier. Et Elle fait penser, à juste titre, comme tu disais, à notre République. C'est d'une grande, grande force.
Oui. Le tableau de la Croix.
Le tableau de la Croix, oui. Ensuite, en 1945, elle fait une grande sculpture de Tchaïkovski, qui est érigée encore actuellement à Moscou. En 1943, un monument dédié à Maxime Gorki. Et en 1950, elle sculpte un groupe où il est noté, qu'elle a nommé « Nous exigeons la paix ». Donc, c'est une dame qui a... Eh bien, je vous invite tout simplement à regarder un petit peu, puisqu'on a Internet aujourd'hui, regarder un petit peu ses œuvres et regarder aussi la suite de ce que je vais vous proposer, parce que vraiment, ce sont... Ah oui, on trouve sur Internet, oui. Ce sont vraiment des artistes de grand niveau. Alors, le deuxième qui était présent à cette exposition universelle de 1937 est le peintre Gustave Clusis. Alors, lui est né en 95 et mort en 38. Et alors, il avait rejoint l'unité des tirailleurs volontaires pendant la Révolution. En 1918, il installe son propre atelier à Moscou et suit les cours de Malevitch. Et en 1919, au sein des ateliers supérieurs d'art et de technique, il est un des premiers artistes à réaliser un photomontage qu'il nomme « Ville dynamique ». Il en fera une série. Clusis rejoint le groupe d'artistes qui mirent au travail au service du communisme ses créations destinées à la diffusion des messages de propagande. Clusis était quelqu'un qui avait formé également, avec d'autres artistes, un groupe qui s'appelait Octiabre, qui est le mot, bien sûr, qui veut dire octobre, et représentait de nouveaux genres de travail artistique. Mais à mon avis, il n'a pas dû être bien considéré à cette époque-là, puisque il a été arrêté en 38 par une organisation contre-révolutionnaire. Et il fut condamné et exécuté avec d'autres intellectuels lettons. Il faut dire que ses origines est aujourd'hui la Lettonie. Mais il a été réhabilité en 1956. Donc là, ce sont les périodes difficiles en URSS. J'en viens au dernier qui est, à mon avis, le plus important. C'est Victor Koretsky. Alors, qui lui est né en 1909 et qui est mort il n'y a pas longtemps, en 1998. Alors, cet homme, a suivi les arts plastiques de l'éducation nationale de Moscou, qu'on appelle l'école du Monk. Et alors, il a été, lui, influencé par des artistes engagés comme Roshchenko ou les frères Steinberg, mais surtout par John Hirtfield. Et son travail a été l'art graphique politique. Il a rapidement eu son propre style, ça a été le photomontage. Donc, ce qui veut dire qu'à cette époque, on travaillait beaucoup ça, c'était très répandu. D'ailleurs, c'est une technique d'avant-garde. Et on n'a pas bien le temps d'aller plus loin, mais beaucoup de ces artistes ont influencé le travail en Europe aussi. Et alors, les autorités ont découvert ce jeune artiste qui faisait un travail évidemment phénoménal, avec, entre autres, sa première affiche qui s'appelait « Les travailleurs de tous les pays ». Il a travaillé sous Staline et jusqu'à Gorbatchev. Donc, il a eu une cinquantaine d'années de travail vraiment intense. Et on peut situer son travail en trois périodes. La première a été la guerre mondiale et ses suites, la deuxième, la politique intérieure, la troisième, la politique internationale et la politique anti-américaine. Évidemment, on pouvait trouver ces affiches dans les lieux publics, mais aussi dans la Pravda. Et il est mort donc dans l'anonymat, ce qui est tout à fait dommage. Je suppose qu'on en reparlera par la suite, parce que lorsqu'on regarde ses œuvres. Alors, bien sûr, les premières ont tendance à bien ressembler à cette période socialiste soviétique, mais par la suite, je vous assure, il existe actuellement des affiches, un travail fait par nos artistes contemporains qui sont les affiches politiques où on a cette liberté d'expression. Mmh. Et il y a certaines, beaucoup même, d'affiches de cet artiste, donc qui est Victor Koretsky, qui peuvent être encore aujourd'hui affichées de partout et éditées de partout. Il n'a absolument pas d'écart avec nos artistes actuels. Oui, et par son art et par son contenu, oui. Il était d'une grande modernité. Mmh. Donc Aragon, on en revient quand même à Aragon, il a senti très tôt le besoin de ces démarches-là et très tôt il s'est rendu compte de la qualité de ces artistes qu'il a soutenus et qui ont été à ses côtés pendant toute sa vie d'écrivain. Mmh.
Oui, d'ailleurs, je pense que sur tout ce mouvement, il y aurait sans doute... Parce qu'il y a très, très peu de choses, hein, quand on cherche, même au niveau livre, etc. Et alors que tout n'est pas justement de ce naturalisme qu'on
non,
reproche.
Pas du tout.
Et là, ce que tu as amené, là, moi, je trouve que c'est très moderne, quoi.
Hein, bien comme, sûr.
Oui, oui. Et cette volonté aussi, quand même, qu'il y a, qu'on retrouve aussi un peu aujourd'hui, d'amener justement l'art de... Moi, je me souviens, par exemple, quand il y a eu les colonnes de Buren à Paris, bon, amener l'art, justement, dans la ville, dans la société, etc. Et ça, c'est quand même...
Et sur la place des terreaux.
Et sur la place des terreaux, oui, oui. Bon, je sais pas, il nous reste plus beaucoup de temps là.
Non.
Oui, donc non, peut-être pour terminer sur l'itinéraire d'Aragon et d'Elsa aussi. Il faut pas oublier Elsa qui était très très présente au cours de tout ça. Donc là, cette série d'articles dont on parlait, donc c'est 1952. Bon, 1953, ben on sait que c'est la fameuse affaire du portrait. On rappelle que le dirigeant à l'époque du Parti communiste, un peu par intérim, hein, puisque Maurice Thorez est absent, c'est Auguste Lecoeur. Et ce que j'ai retrouvé, ce qui nous ferait peut-être pour terminer là-dessus, un combat qu'Aragon va finalement gagner, c'est en 1954, donc un an après l'affaire du portrait, il y a un congrès du Parti communiste qui se déroule à Ivry, donc en 1954, du 3 au 7 juin. Et Aragon prononce une conférence qui s'intitule « L'art de parti en France ». Et il s'en prend très directement à Auguste Lecoeur, qu'il nomme d'ailleurs, où il dit « L'affirmation que ce qui importe, c'est le fond, et que la forme n'est une préoccupation que pour des esthètes minaudiers, comme il disait. » Et donc, comme il disait, c'est Lecoeur qui disait ça. Et là-dessus, Aragon est catégorique. Il dit « Où la forme faiblit, vous pouvez parier qu'il y a toujours une insuffisance de contenu. » Donc ce refus, qui à l'époque, on est dans les années 50, Dieu sait si la norme, par exemple, pour ce qu'on appelle le commentaire composé exercice scolaire pour le baccalauréat, c'est un plan, la forme, le fond, etc., que aujourd'hui, qui est un schéma qui est complètement récusé aujourd'hui. Et donc ce combat où je pense vraiment qu'Aragon a profondément raison, quoi, hein, là-dessus, c'est un mauvais procès d'intention de lui reprocher le contraire. Eh ben il va le gagner. Alors il va le gagner comment? Ben il va le gagner avec Maurice Thorez, hein, et c'est ce qu'il fera 10 ans plus tard à la mort de Maurice Thorez en 1964. Lorsqu'il fera son éloge et où il le saluera, parce que bon, il est vrai que Maurice Thorez quand même d'origine ouvrière, ayant peu eu de contact avec l'art dès son enfance, hein, ben Maurice Thorez est quand même quelqu'un qui, surtout dans le domaine de la peinture, nous dit Aragon, a défendu Picasso, Léger, etc. Et enfin, pour terminer sur cet aspect d'Aragon et la politique, ben, les positions d'Aragon, et c'est important dans l'histoire du Parti communiste français, vont trouver leur apothéose lors du comité central d'Argenteuil sur les questions de l'idéologie et de la culture qui se déroulera entre le 11 et le 13 mars 1966. Et à la Société Aragon, d'ailleurs, on a édité un numéro spécial des Annales où on a répertorié les interventions d'Aragon, et également parce qu'il y a eu d'autres choses, il y a eu notamment le début de la querelle idéologique entre Roger Garaudy et Louis Althusser, et l'influence aussi de quelqu'un qui poursuivait la ligne de Thorez, qui était Waldeck Rocher, qui était un dirigeant du Parti communiste qui a été rapidement touché par la maladie, mais qui était quelqu'un d'important en la matière d'art. Pareil, c'était un grand lecteur de Spinoza, par exemple. C'est vrai, quand on entend Waldeck Rocher avec son accent bourguignon rocailleux, le lien entre Waldeck Rocher et Spinoza, ça se fait pas automatiquement dans les esprits. Et voilà. Mais c'est tout un parcours, qui a demandé du temps, etc. Je pense que ça fait partie de la grandeur d'Aragon. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de, il n'y a rien là-dessus, en fait. Des articles, mais il n'y a pas d'ouvrage un peu consistant sur cette question.
Eh ben, il faut y mettre.
Ah oui.
La prochaine fois, donc, on attaquera les biographies.
Ah oui, Juquin. La prochaine fois, on parle de Juquin. Et là, il y a du boulot, hein, parce que il y a, plus de 2000 pages, enfin.
Et pour nos auditeurs, ça devrait être le 14 avril.
14 avril, oui.
Tu voulais faire une annonce d'une lecture de textes d'Aragon Renaissance.
Notre ami Michel Bray, le 16 mars, fait une lecture d'Aragon surréaliste. Aragon surréaliste. Et ça aura lieu
à la Renaissance, à Oulin.
Au Théâtre de la Renaissance à Oulin. Dans une salle du Théâtre de la Renaissance, c'est pas dans la grande salle.
Non, c'est pas dans la grande salle, c'est voilà. Une salle.
Donc le 16 mars.
Voilà, merci à vous. Et puis donc, merci. Prochain rendez-vous, merci, vraisemblablement le 14 avril.
Thank you. Thank you.